accueille ta présence. Amen et amen et amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je suis super content, je suis ému, touché, béni de voir ce que Dieu fait ici à Connect Grenoble. Chaque dimanche après dimanche, il y a des choses qui se mettent en place et nous avons décidé en début d'année avec Jean-David, Romain, nos épouses, avec toute l'équipe de Connect Grenoble, de démarrer une nouvelle série. Et en fait, durant toute cette année, on a trouvé bon et on a pensé, n'est-ce pas JD, qu'il était bon de développer la culture de l'Église, qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre. Et c'était, pour donner cette image, c'était comme il y a sept piliers, sept trompettes. On voyait sept messages très très importants qu'on va apporter dans les prochaines semaines sur qu'est-ce que l'Église Connect Grenoble est censée porter dans son cœur, dans son âme. Et un des premiers piliers qu'on aimerait poser ici dans cette famille d'églises, dans cette église spécifique, c'est la culture autour de l'amour du Père. Il y a beaucoup de choses qui concernent ce sujet. On a beaucoup entendu, je parlais à un ami qui est ici, qui me dit « Oui, mais l'histoire du fils prodigue, l'histoire du Père, tout le monde connaît, ça fait partie des meubles même de notre vie chrétienne. » Et pourtant, moi, il y a des années de ça, alors que j'ai revisité cette parole, c'est comme si j'ai découvert, il y a eu un avant et un après, j'ai découvert l'amour du Père qui a complètement transformé mon cœur. Et j'aimerais nous inviter, j'aimerais vous ouvrir la porte à rentrer dans cette dimension que je suis fils, fille de Dieu. Et ça change complètement tout ton prisme, comment tu vois le Seigneur, comment tu vis ta vie chrétienne, ça change toutes tes motivations. Et du coup, la semaine dernière, on a vu ensemble le fils prodigue, et je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas refaire la prédication. Du fils prodigue, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a complètement cramé tout l'héritage familial qu'il avait de son père. Il partit dans un pays qui était lointain en dissipant tout l'héritage familial, c'est toutes les valeurs, tout ce que son père lui a donné, lui a transmis. Il va tout cramé et il revient à la maison ayant tout perdu et son père l'accueille, il fait une fête, il se réjouit et ça représente l'amour de Dieu le Père. Lorsqu'on a tout planté, qu'on revient vers lui, à nouveau il nous accueille les bras ouverts. Avec richesse, avec tendresse, et Dieu ne calcule pas. Et on l'a vu dimanche dernier, c'est l'amour du Père, il est sans calcul, il est sans compter. Il n'y a pas de condition de est-ce que tu es repentant ou pas. Il vient, il voit son fils, il dit t'étais mort, t'es retrouvé, il y a une fête, il y a tellement de bonnes choses. Et maintenant, nous allons passer dans la deuxième dimension, parce que quand tu lis l'histoire de Luc 15, il est question d'un père avec deux fils. C'est comme deux portraits. C'est comment Dieu se comporte à l'égard de deux populations, deux personnes qui parfois sont dans l'Église. Et aujourd'hui, on va regarder ce deuxième fils et la prochaine diapo, on va le regarder ensemble à la découverte, dans cette série, à la découverte du cœur du Père. Et je le lis pour vous. Si vous avez des Bibles, vous n'hésitez pas à sortir des Bibles et à peut-être prendre vos téléphones et à le lire avec moi. Luc 15, si vous n'avez pas vos Bibles, le verset va apparaître à l'écran. Luc 15, verset 11. Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda qu'est-ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, ben ton frère est de retour. Et pour lui, ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusa de franchir le seuil de la maison. Et son père sortit pour l'inviter à y entrer, mais il répondit « Cela fait tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à un de tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras, papa. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi, mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir. » Puisque ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, puisqu'il est perdu et il est retrouvé. Waouh ! Quel texte ! Vous savez les amis, il y a beaucoup de choses dans le monde, il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes recherchent, pour lesquelles les gens sont prêts même parfois à faire beaucoup de sacrifices pour l'obtenir. Et j'aimerais vous proposer, il y a une chose pour laquelle le monde court, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Dites avec moi « reconnaissance ». J'aime que les gens, j'aime être connu, j'aime être apprécié, j'aime être reconnu, j'aime tout simplement que les gens soient au courant que je suis une bonne personne. Et je veux parfois, même dans l'église, je veux que les gens sachent à quel point j'aime Dieu, à quel point je suis spirituel. Et je veux que tout le monde soit au courant. Et parfois même, ça nous arrive de diriger notre prisme vers Dieu. Je veux que Dieu soit au courant combien moi je l'aime. Est-ce que vous me suivez? Et en fait, c'est subtil, mais c'est comme si au lieu de mettre le prisme vers Dieu, on met le prisme vers nous. Vous êtes là? Je suis le centre de l'histoire. Et parfois, dans notre histoire, si les figures d'autorité, si mon père, mon grand-père, enfin, dans mon entourage, les figures d'autorité ont mal rempli ce rôle de peut-être de valorisation, de ce besoin vital d'estime de nous-mêmes, il est probable que nous développons ce reconnaissance, ce profond besoin de reconnaissance envers Dieu. Et en fait, quand on est converti, quand on passe par les eaux du baptême, on pense que tout s'arrête, mais on garde en nous ces habitudes. On garde en nous ces chemins profonds en nous et on est dans cette espèce de course. Prochaine diapo. Du coup, on a ce besoin d'être aimé et on va avoir intérieurement juste deux réactions. La première, c'est d'impressionner Dieu et la deuxième, c'est de nous comparer aux autres. Impressionner Dieu. Prochaine diapo. On tombe ce que j'appelle dans une course imprégné dans la motivation de tout ce que nous sommes capables de faire pour impressionner Dieu et les autres, au lieu de me laisser impressionner par tout ce que lui a fait pour moi. Cette espèce de course. Je cours souvent dans mes prières, Seigneur je t'aime, et puis Seigneur je suis là, et puis Seigneur je suis passionné, et puis Seigneur, est-ce que vous me suivez ? Seigneur, c'est moi vis-à-vis de toi. Et un jour alors que je priais, je sentais vraiment l'Esprit de Dieu qui est venu vers moi, dans cette dimension un peu de, je dirais, de cœur qui n'est pas connecté à l'amour du Père. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais lequel de nous deux aime plus l'autre ? Je dis, ben c'est une bonne question. Je crois que c'est toi qui m'aimes plus que moi je t'aime. Et dans tes prières, tu parles plus de quel amour ? Tu parles plus du tien ou du mien ? Et parfois, ça demande de vraiment connaître son amour pour dire « Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, tu es bon avec moi. Seigneur, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu es bon ?» Et on proclame qu'il est. Et ça demande de le connaître un petit peu plus. Est-ce que vous me suivez ? Du coup, on sort du tout ce que moi je fais pour toi. Et ce fils aîné, il dira à son père, cela fait tant d'années que je suis à ton service, tant d'années que je te sers, jamais j'ai désobéi à un de tes ordres. Prochaine diapo, je le dis de cette façon, si vous cherchez à prouver votre amour à Dieu, vous allez perdre la vision de son amour pour vous. Et si vous cherchez à prouver à Dieu votre amour, vous allez avoir des attentes vis-à-vis de lui non répondues. Le fils aîné s'est mis en colère et depuis toujours, il attendait vers son père quelque chose qu'il ne prenait pas, quelque chose qu'il n'osait même pas demander. Regardez, lui s'est gardé pur, il a toujours été à la maison. Et quand vous lisez le texte, le fils aîné était plus riche que le frère cadet, puisque le frère, il n'a plus rien. Vous êtes avec moi ? Le fils aîné a tout et il se comporte comme s'il n'avait rien. Il a un héritage, même son héritage a grandi avec le temps et les années qui ont passé. Et c'est un mange-misère, il n'a rien, il se prive de tout. Il attend de son père une récompense pour ses bonnes attitudes. Et en fait, souvent, encore une fois, on cherche à impressionner Dieu. Et parfois, il y a beaucoup de gens, et ce fut mon cas, où on s'investit dans l'église, on fait plein de choses, on court à droite, plein de choses pour un petit remerciement. Un petit merci, un petit un petit dis-moi quelque chose. Mais si vous êtes avec cette motivation intérieure, vous allez vouloir un chèque de la part de Dieu. Vous allez vouloir une récompense. En fait, vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent un peu avec Dieu en mode transactionnel. Je fais quelque chose pour toi, tu dois me bénir. Je fais quelque chose, je vais à l'église, j'ai le droit au bonheur. C'est les droits inaliénables dans la Constitution. j'ai le droit au bonheur. Il faut que tu me bénisses, il faut que j'ai un bon foyer, un bon mari, une bonne femme, il faut que j'ai une bonne situation, un bon job. Combien sont d'accord avec moi que ça n'arrive pas toujours comme ça ? Ah, ok. Je suis un bon chrétien, tu dois me bénir, tu dois me donner un grand ministère, tu dois me faire réussir, j'ai le droit au bonheur. Alors, si tu veux, il y a juste un endroit à côté pour les enfants, parce que il va parler plus fort que moi. Vous pouvez être même un bon serviteur dans l'église. Et parfois, souvent, ce qui se passe, et là, je parle pour mon cas, on essaye d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis des gens et on se met à servir les gens pour être apprécié des gens. Et moi, je me rappelle une fois, j'étais à l'église et je me rappelle, j'étais en train de passer la serpillière, pardon, dans l'église, et il y avait des gens qui passaient à côté, qui disaient même pas bonjour. Alors c'était une église un peu où il y a, c'était un même bâtiment, mais il y avait plusieurs églises, et puis je passais la serpillière, etc. Et puis il y a des gens qui passent, il y a une personne qui passe en face de moi, elle me dit pas bonjour. Je dis, mais pétard, elle ne me dit pas bonjour, quand même. Puis une deuxième personne qui passe, elle ne me dit pas bonjour. Je dis, ah, mais quand même, ballot, elle est chrétienne, il n'y a pas d'amour dans l'église, vous me suivez un peu là. Puis une troisième personne qui ne me dit pas bonjour. Et là, je lâche le balai, mais je dis, c'est pas possible ça. Les gens ne me disent pas bonjour. Et intérieurement, j'étais avec mon balai frustré. Puis je commence à parler à Dieu, je dis, ouais, moi je suis là, je me donne. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Est-ce que vous me suivez ? Moi, je me donne. Et tout d'un coup, c'est un des moments les plus rares et les plus magnifiques que j'ai eu la bonté de vivre avec ce Dieu que je découvrais comme un père. C'est comme si Dieu m'a dit, mais pour qui est-ce que tu fais le ménage ? Ben, je dis, pour les gens. D'accord. Ben, si tu fais pour les gens, il est possible que tu vas être frustré. Et c'est comme si, bah, Seigneur, je le fais pour toi. Et en fait, pour qui est-ce que vous faites les choses ? Si vous concentrez sur « je le fais pour mériter de la reconnaissance, de l'amour, de l'admiration des gens », vous allez chercher la reconnaissance, la louange et la gloire des hommes, mais vous allez complètement passer à côté de ce que Dieu pense de vous. Et la deuxième caractéristique du fils aîné, il a commencé à se comparaître aux autres. Prochaine diapo. Mais quand celui-là, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Et en fait, le fils aîné, à l'instar de beaucoup de chrétiens, il se voit obligé de descendre les autres pour se rehausser lui-même vis-à-vis des gens qui sont autour de lui. Moi, je serai à la hauteur des exigences de mon père. Moi, je serai le fils digne, je ne décevrai pas papa. Papa, il sera fier de moi. Moi, je ne suis pas comme tous les autres chrétiens qui ne savent pas prier, qui ne lèvent pas leur Bible. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je suis quelqu'un de pur. Moi, je suis quelqu'un d'intègre. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Vous savez, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, il n'est pas un chrétien bac plus 5. Moi, frère, ça fait 45 ans. Vous comprenez ? Que je sers le Seigneur. Que je suis là dimanche après dimanche. Je n'ai pas manqué une réunion de prière en 25 ans. Est-ce que vous suivez ? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on croit, on croit que c'est là, je dirais, c'est nos œuvres, c'est je dirais, là, tout ce que je suis capable de faire, alors que, en fait, ce qui fait la maturité chrétienne, ce n'est pas le nombre d'années, c'est de découvrir la bonté et la richesse de l'amour de Dieu. C'est ça qui fait la maturité chrétienne. Vous êtes avec moi ? Et en fait, quand vous lisez l'histoire de ce fils aîné, il enrage, il sort, il est privé de joie, il s'énerve parce qu'il est saisi à la gorge par une question. Restez avec moi. Une question. Il voit son père qui bénit quelqu'un, il embrasse quelqu'un qui ne le mérite pas. Et lui, ça lui pose une question. Toi, qu'est-ce que tu vis dans ta vie ? Et lui se dit, ce que mon frère, il a, moi, je ne l'ai jamais vécu. Cette spiritualité, cette dimension, cet amour, moi, je ne le vis pas. Et au lieu de se remettre en question, lui, il jette sur les autres. Est-ce que vous êtes là? On a eu un ami qui s'appelle Julian Adams qui est venu faire une conférence il y a 2 mois de ça, une conférence sur le cœur du Père. Et il y a des années de ça, alors qu'on était ensemble, Julian m'a raconté une histoire qui m'a tellement bouleversé. Il est prêché dans le nord de l'Écosse et il était dans une église. Et au moment où il s'apprêtait à porter la parole de Dieu, il y avait un temps de louange, c'était une grande église. Et puis il y avait des enfants qui étaient devant, qui dansaient, qui faisaient la fête et tout. Et tu avais un gars, comment dirais-je ? C'était un original, tu sais, un gars qui dansait, qui faisait pas trop attention à ce qu'on pouvait penser de lui. Tu vois, il y a un peu original, un peu wow, tout en, mais un peu particulier. Voilà. Et en fait, c'est comme s'il buvait l'amour de Dieu. Il y avait tellement une expression. En fait, il s'en fichait totalement de ce que les autres pouvaient dire. Et mon ami Julian, qui était l'orateur, qui s'apprête à prêcher, il se retourne vers le pasteur qui était là et qui l'invitait. Et il dit, hey, mais quand même, ce monsieur qui est là, il a l'air quand même à fond, tu vois, il est intense, hein, etc. Et puis le pasteur, il dit, ah lui, il est juste extraordinaire. Il s'appelle Eduardo, c'est un Brésilien qui était toxicomane, qui était dans la rue, et puis il a donné sa vie au Seigneur il y a 2 mois. Dieu l'a complètement restauré, rebâti. Aujourd'hui, il est directeur d'un magasin, d'un des plus grands centres. C'est un des plus beaux témoignages qu'on a dans l'Église de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Waouh! Et lui, tout d'un coup, il se reprend un peu de son jument intérieur. Tu sais, ah ouais, oh, c'est super. Et puis, il continue de louer le Seigneur. Et tout d'un coup, lui me raconte ça. Il dit, je sens la présence du Saint-Esprit qui me tombe dessus. Et le Saint-Esprit qui lui dit, tu sais, c'est quoi la différence entre toi et Eduardo? Il dit, bah oui, Seigneur. Dis-moi, je suis quelqu'un de saint. Moi, ça fait depuis des années que je sers le Seigneur. Je suis quelqu'un de prophétique. Je fais des conférences, etc., etc. Et puis, le Seigneur, il lui dit, non. Il dit, c'est que lui, il a juste plus conscience de l'amour et de la grâce sur sa vie que toi. Oh. La réaction du Père est celle que Dieu a pour nous. Le Père ne fait aucune distinction entre les deux fils. Bon chrétien, immature en voie de sanctification. Le prochain diapo, le père, il sort, il est choqué de la réaction de son fils et il lui dit « mon fils ». Oh, il réaffirme sa paternité, « mon fils, ma fille ». Il lui dit « je suis désolé que tu te sentes ainsi, je le paraphrase, mais voilà ce que le cœur du père vous dit. Et que tu éprouves ces sentiments qui te font mal, je veux que tu saches que je t'aime, que je t'ai toujours aimé. Sache que tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que j'ai est à toi, absolument tout ce que j'ai est à toi. Je veux ton bonheur, c'est tout ce qui m'importe. Partout où tu vas, dans les champs, dans mon bétail, regarde tout ce que tu vois, tout ce que j'ai est à toi. Je ne peux pas te donner plus, tu es déjà en possession de tout. Tous mes serviteurs te sont soumis, tu as en droit de gérer mes affaires. Tu peux te servir quand tu veux, car tout est à toi, mais au-delà des richesses, tu as accès à mon cœur. Et la plus grande leçon du fils aîné, celle-ci, mes amis, c'est que le fils aîné, lui aussi, il avait un héritage, mais c'était devenu un étranger dans la maison du père. Le fils aîné avait toutes les richesses de son père, mais aucune communion avec lui. À trop vouloir prouver son amour à son père, il s'est privé de la communion qu'il pouvait avoir avec lui. Les amis, je vous ouvre une porte aujourd'hui. C'est de rentrer dans cet amour merveilleux du père, de laisser vos actions, de laisser vos... Et c'est ça l'histoire du fils aîné, c'est je fais toutes mes bonnes œuvres. Et il y a toute sa religiosité, il y a toute sa vie spirituelle, tout ce qu'il est capable de faire, tous ses dons, ses talents, tout ma capacité, je veux paraître, tout ça, mettez-le de côté. Mettez-le de côté. Refuser le statu quo spirituel. En fait, c'est comme s'il n'avance pas, il fait du surplace dans sa communion avec son père. Depuis des années, il n'avance pas parce qu'il est sclérosé, il est figé, il vient. Et parfois, souvent, et certains chrétiens, on est comme ça. On vient depuis des années à l'église, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas d'avancée parce qu'on refuse. Vous êtes avec moi? Et nous voulons être ici une église du changement. Une église d'imparfaits qui changent, qui sont en chemin, qui avancent. Est-ce que vous êtes avec moi? Que tous les imparfaits disent amen. Alléluia, je me sens moins seul tout d'un coup. Si vous négligez la communion avec le Père, vous allez passer du temps dans l'activité des champs. Et un jour, vous allez oublier votre identité de fils. Le fils aîné s'était devenu un très bon serviteur, mais il avait oublié qu'avant tout, son service, c'était un fils. Et ce statut de fils, il n'a rien fait pour le faire. Il n'a pas eu à mériter. C'est quelque chose qui lui a été donné depuis la naissance. Qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, c'est toujours un fils qui soit un bon serviteur ou un deuxième fils prodigue. C'est un fils. Rien de ce qu'il fait ne viendra changer le fait que c'est un fils et qu'il a l'amour du Père gratuitement. Alléluia. Oh ! Et moi, je suis à fond. L'amour de Dieu est gratuit. Et vous y avez tous accès. Mais vous devez choisir entre l'activisme ou la communion avec Dieu. Maintenant, attention, qu'on se le dise, on a quand même besoin d'aide dans l'organisation de l'église, du culte. C'est parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi je suis cool, je suis un fils, je ne fous rien du tout ». Non, enfin, c'est mon fils ce matin dans la voiture. Il me dit « Papa, la voiture, elle est sale. » Je dis « Ben ouais, mais tout le monde en profite. Donc, parce que t'es fils dans la maison, tu dois nettoyer la voiture. » Un jour, je vois mon fils. Alors, pas, tu sais, il s'éclate de rire, là. Je vois le plus petit. Un jour, je lui rentre dans sa chambre. Je lui dis « Mon chéri, il faut que tu fasses ta chambre. » Il se lève, il dit « Mais papa, je ne suis pas une femme de ménage. » Seigneur Dieu. Alors lui, c'est un fils, mais je lui dis, tu profites de la maison, donc tu nous aides. Et maintenant, j'aimerais vous dire à tous, fils et filles, vous profitez des chaises, des petits fours, wouhou ! C'est bien, tu nous aides. La première fois, si vous êtes visiteur, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire. La deuxième fois, tu fais partie de la famille, il faut que tu nous aides. Est-ce que vous êtes avec moi ? Mais on a besoin de choisir. On a besoin de choisir dans la vie spirituelle. Est-ce que je me défonce ? Est-ce que je fais toujours mes bonnes œuvres ? Ou est-ce que j'ai une communion avec Dieu ? Est-ce que je passe du temps avec lui ? Est-ce que je me laisse aimer par lui ? Il y a des années de ça, je me rappelle, j'étais dans un hôpital, une petite convalescence, de 3 jours à l'hôpital. Et pendant que j'étais à l'hôpital, je partageais la chambre. J'avais pas une chambre individuelle. J'ai eu quelqu'un à côté de moi. Puis je commence à parler de Dieu. Et en fait, ce monsieur, c'est un des plus grands avocats de Paris, Vincent. Puis on a commencé à discuter. Et puis il me dit, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, je suis commercial. Puis je suis à côté de ça. Je suis aussi chrétien. Et puis on parle de Dieu. Et puis on parle en profondeur. Et on a des vrais échanges. Puis forcément, on a 3 jours ensemble. Et on parle de Dieu. Puis lui, il avait une petite opération. Et puis on a gardé quand même contact, même aujourd'hui. Et je me rappelle que alors qu'on est sorti 6 mois plus tard, j'avais dit, on se reprend nos coordonnées. Et puis on se revoit. Et puis j'ai donné rendez-vous à l'avocat un jour en plein cœur de Paris, boulevard Haussmann. C'est un des endroits les plus réputés et huppés de Paris. Et il se trouve qu'on s'était donné rendez-vous à 13h devant tel restaurant. Super restaurant parisien, magnifique. Et je suis devant ce restaurant-là. Et moi, j'avais déjà tout préparé. J'avais même acheté un petit livre que j'allais lui remettre pour qu'il puisse grandir avec sa foi dans le Seigneur. J'avais prié, j'étais préparé, hein, vous savez. Et puis Vincent n'arrive pas. Et puis 13h15, 13h20. Et le problème avec les avocats à Paris, surtout, c'est qu'ils ont plein de rendez-vous. Sachant que j'avais pris le rendez-vous, il y avait des semaines auparavant, des mois, et je n'avais pas confirmé le rendez-vous. Je dis, c'est sûr, il m'a oublié. Et je me trouve en plein cœur de Paris. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour être là. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ? Oh là là, l'avocat, il n'est pas là. Mais ma femme a son bureau juste à côté. Je dis, Seigneur, allez, on fait d'une pierre deux coups. Tu n'as pas perdu complètement ton temps. Je vais attendre ma femme et ma femme sort à 13h30. Et je vais la chercher juste. Elle passe dans la rue et je lui dis, chérie, je suis là. Elle me dit, mon amour, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je dis, je suis là pour toi. Elle me dit, oh, t'es trop beau, mon cœur, t'es venu. Tu m'as fait la surprise. Ben, je dis, oui, mon amour, je suis là pour toi. Elle me dit, ah, c'est génial, qu'est-ce qu'on fait ? Elle est toute contente et tout, on n'avait pas des enfants à cette époque-là. Elle est fière, elle est contente, mon mari, il est venu me voir. Et je lui dis, chérie, on va au restaurant. Non ! Et je te promets, quand je dis ça, elle a presque les larmes. Elle me dit, t'es Je dis, ouais. Et je l'amène devant le restaurant que j'avais réservé pour l'avocat. Je dis, on est ici. J'ai réservé pour deux personnes. Et on arrive, on rentre. Le monsieur, c'est monsieur Valbon. Oui. Et puis ma femme, elle est. Et puis on rentre, tu sais, siège de velours rouge. Magnifique, tu vois, elle s'assoit, madame, qu'est-ce que je peux vous servir et tout, qu'est-ce que vous prendrez? Et elle s'assoit et je me rappelle de ses yeux verts, magnifiques, qui me contemplent et qui me regardent. Et moi, je me rappelle avec mon Sprite, c'est mon digestif, je lui dis, chérie, qu'est-ce que je t'aime, je suis là pour toi. Et elle, elle dit, mais pourquoi, comment? Juste profite la grâce. Un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs. Et je me souviens, alors que je suis en train, par-dessus son épaule, au loin, je vois arriver qui ? L'avocat. Et je me rappelle ses yeux verts qui me contemplent. Elle était en les yeux de biche amoureuse, tu vois. Oh là là là, gars. Et je vois l'avocat venir vers moi dangereusement, tu vois. Et là, dans ma tête, je fais tling, 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 film d'horreur. Ah là 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 ! Je me suis levé, j'ai tiré là. J'ai dit, chérie, on a un invité surprise aujourd'hui. Salut Vincent! Et ma femme, mais non, c'est mon date, c'est mon repas. Qu'est-ce que tu me fais? Je t'expliquerai plus tard, Ah, on t'attendait. Hey, salut, ça va? Elle m'en a voulu pendant 20 ans. Même aujourd'hui, elle m'en parle encore. C'est horrible. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je t'en aurais pas voulu si tu m'avais prévenu. Ce qui m'a fait du mal, ce qui m'a blessé, c'est que tu fais comme si j'avais la priorité, en fait, que je l'avais pas. Est-ce que vous me suivez? Et souvent avec Dieu, on fait comme s'il avait la priorité, mais au fond de nous-mêmes, il l'a pas complètement. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand Dieu te demande de lâcher quelque chose, de pardonner, de te repentir, c'est là... Mon père dit « où les Athéniens s'atteignirent ». C'est là où on voit réellement c'est quoi tes motivations. Pourquoi? Comment? Si vous communiez avec le Père dans sa maison, votre tête sur son cœur, combien il vous aime, vous n'aurez pas de problème à bénir les autres quand il bénit les autres, parce que vous n'êtes pas exempt de cette communion. Le jour où Dieu bénit les autres qui ne le méritent pas, parce que vous avez votre connexion avec l'amour du Père, ça ne vous cause pas de problème. Plus quand vous êtes connecté à l'amour du Père, vous aimez que Dieu bénisse les autres. Vous aimez plus quand vous êtes fils connecté à l'amour du Père, vous êtes un instrument de bénédiction pour bénir les autres qui ne le méritent pas parce que ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de lui. Si vous découvrez, et troisième point, et je termine avec ceci, si vous découvrez l'amour de Dieu, qui il est, vous allez découvrir et comprendre qui vous êtes dans son cœur. Et cela pose une question, c'est ce qu'on appelle l'identité. Mon identité, prochaine diapo. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Le fils aîné, voilà, c'est ça. Or, si nous sommes aussi ses enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Et parce que vous êtes fils et filles de Dieu, vous pouvez appeler, et c'est Paul qui dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit d'adoption de son fils par lequel nous crions Abba, Abba Père, c'est-à-dire Papa. Ces versets soulignent notre identité. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tournez-vous vers un voisin, mets-lui un petit coup de coude et dis-lui, tu vaux mieux que ça. La prochaine diapo, regardez, je termine ici, donnez-moi toute votre attention. Si tu veux juste peut-être fermer cette lumière qui est là. Non. Ouais, qui est presque. Yes. Voilà. En fait, regardez-moi, je termine avec ceci. Quand nous donnons notre vie à Jésus, en fait, il y a une progression. Au tout début, on est... loin de Dieu, esclave du péché, comme il dit Paul, chacun suivant ses propres voies. Donc au tout début, on est, hop là, on est ici, esclave du péché. on est soumis au péché. Et il y a un moment donné où on découvre l'amour de Jésus, c'est la croix, et waouh, je suis sauvé, j'ai mon ticket pour le ciel. Alléluia. Et l'église devient la croisière s'amuse. Non, c'est une blague. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand on grandit avec Dieu, on ne le sait pas, mais on est orphelin. Orphelin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui marche sans la provision du Père, sans l'affection du Père. Alors qu'ils sont enfants de Dieu. En fait, quand tu deviens, quand tu nais de nouveau, ce qu'on appelle dans notre jargon, quand tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, tu ne le sais pas, mais automatiquement, tu es enfant de Dieu. Tu fais, et c'est ce que Paul dit. Il dit, l'Esprit Saint nous a appelés Abba Père. On peut l'appeler, l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais, parce qu'on ne le sait pas, pendant longtemps, on végète et on avance dans la vie chrétienne comme des orphelins. Mais il y a des gens spirituels, il y a des gens qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur relation avec Dieu. Et automatiquement, ce qu'on fait naturellement, c'est qu'on devient des serviteurs dans l'Église. On sert à l'Église. On sert le peuple de Dieu. On sert les gens parce que je veux être aimé, parce que je veux être apprécié. Et puis quelque part, un petit peu, c'est même inconscient. C'est Seigneur, merci pour ton amour qui est gratuit pour moi, mais laisse-moi te rembourser ton salut. Hein ? Laisse-moi te rembourser le crédit, laisse-moi t'impressionner. Est-ce que vous me suivez ? Et plus on avance, il y a un moment donné où on bascule du fait qu'on devient héritier et co-héritier de Christ. Et à ce moment-là, il y a un shift qui se passe dans ton esprit. Il y a quelque chose qui se passe. Tu te sens aimé de Dieu, le Père. Toute ta motivation chrétienne, tu n'attends plus la louange, la gloire, la reconnaissance, l'admiration des gens, parce que tu l'as déjà de ton Père en partant. Et du coup, ça change toute ta base motivationnelle avec laquelle tu fais les choses. Ça change toute ta vie spirituelle. Ça change toute l'orgueil, la soif d'être reconnu, vouloir impressionner les gens. Ça change et ça règle énormément de choses dans l'Église. Énormément de choses entre les chrétiens. Et les dangers, prochaine diapo, les dangers de rester au stade de serviteur, le serviteur, en fait, il marche à la promotion, à l'ancienneté. Ça fait tant d'années que je te sers, ça fait 25 ans, 30 ans que je suis chrétien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on pense que la maturité vient avec le nombre d'années, alors que la maturité vient avec le temps que nous passons dans la bonté de Dieu. Ce n'est pas la vieillesse qui nous donne de la sagesse, mais c'est la connaissance de l'amour et de la bonté du Père. Il est bon. Il est bon. J'ai besoin de le dire encore plusieurs fois pour que ça rentre jusqu'à vous. Il est profondément bon. Il est riche en bonté. Il a un amour sans date de péremption. Et le fils aîné était dans la rébellion. Il a dit « Je t'ai jamais désobéi » alors qu'il venait de le faire, alors que son père vient de lui demander de rentrer pendant la fête. Il est dur, il est accusateur. Il dit « C'est ton fils qui était là dans la débauche. » Il ne le sait même pas, mais c'est devenu un meurtrier. Il ne dit pas « Mon frère ». Il dit à son père « Ton fils » parce que dans son cœur, en fait, depuis des années, il n'avait plus de frère. Pour lui, son frère, il était comme mort. Il y a une partie, en fait, il y a toute une partie des gens qui sont importants dans le cœur de Dieu dont nous allons nous couper lorsque nous vivons dans cette dimension d'orphelin. Parce que je veux ma récompense. Je veux être reconnu. Je veux. Et en fait, lorsqu'on reste à ce stade de serviteur, on exige une récompense, des remerciements, de la reconnaissance d'un pasteur, du responsable. On veut quelque chose des autres. Parce que le serviteur ne fait jamais quelque chose gratuitement. Je vais le redire. Le serviteur ne fait jamais quelque chose gratuitement. Il lui faut une récompense. Et parfois, à l'Église, c'est des titres, c'est une place, c'est une position. Et si je n'ai pas ça, je m'en vais. Et du coup, je te donne, mais j'ai quoi en échange ? Vous savez, moi, à la maison, je ne suis pas payé quand je fais le ménage chez moi. Par contre, la femme de ménage, elle ne vient pas gratuitement. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner à mes fils. Je leur dis, vous profitez, vous faites partie de la maison. Alors, ce n'est pas parce que t'es fils, tu ne sers pas. Tu es fils dans la maison et tu as tes responsabilités. Et je lui dis, tu as un héritage. Un jour, si papa et maman meurent, t'es riche. T'as de l'argent, t'as la maison. Et là, mon fils, il dit, ah ouais. Oh, je pourrais m'acheter une Switch. Enfin, tu vois, c'est... La réalité, c'est que mon fils aujourd'hui n'est pas encore prêt pour recevoir son héritage. Il n'est pas encore capable de gérer ces choses-là. Donc quand nous sommes fils et filles, nous dépassons un niveau. Nous ne sommes plus à l'extérieur de la maison, mais à l'intérieur. Et nous avons accès aux discussions avec le Père que les serviteurs n'ont pas. Je vais terminer avec ceci. Prochaine diapo. L'Église n'est pas une entreprise, ni un club social VIP de chrétiens, de consommateurs, mais nous sommes Connect Grenoble, une famille active dans l'amour du Père. On est bien organisé, prête à manifester l'amour inconditionnel du Père. L'amour, ici au milieu de nous, c'est une culture, c'est la norme qui fonde et qui régit l'ordre familial. On n'est pas là pour prendre des choses de vous, on est là parce qu'on a reçu du Père, on existe pour offrir, profiter des petits gâteaux et de la viennoiserie et des cafés, c'est papa qui offre. Alléluia! Nous sommes là pour offrir. Nous offrons généreusement parce que nous sommes fils et filles bien-aimés du Père. Et on n'a pas de mal à sourire, on n'a pas de mal à être généreux, on n'a pas de mal à donner de l'amour parce qu'on a tout reçu du Père. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et j'aimerais t'inviter ce matin à laisser ta robe peut-être de serviteur, ta robe de cette position-là. L'amour par mon service. Je cherche à être aimé, je cherche à être apprécié. Je cherche l'affection, je cherche tout simplement à ce que des gens m'aiment parce que je fais. La réalité, c'est que Dieu t'aime. Que tu fasses ou que tu ne fasses rien, l'amour de Dieu, tu l'as en partant. Et tout ce que tu vas faire par la suite découlera de cette reconnaissance de l'amour que tu as. Si tu as reçu gratuitement, tu le donnes gratuitement sans rien attendre en retour. Et ce que je vous dis, c'est, ça peut paraître tellement simple, mais en fait c'est tellement profond que j'ai mis des années à le comprendre. De sortir de cet état de serviteur. Il y a plusieurs stades. Cet état, premièrement, d'orphelin, où je suis coupé de l'amour du Père. Le deuxième stade, c'est cet état de stade où je veux servir pour mériter et avoir de l'amour. Et avec tous les travers que ça va en découler, cette reconnaissance, ces jugements, cette amertume qu'on peut avoir vis-à-vis des gens qui sont tout autour. Et à ce troisième état dans lequel Dieu t'ouvre cette porte. Et je sens Dieu qui va à ta rencontre ce matin. Qui vient vers toi. Et il vient peut-être vers une personne ici, met sa face devant la tienne. Et il te dit, tu es ma fille, tu es mon fils. Viens dans la maison. Viens dans les réjouissances, dans la fête et dans les danses. Parce que toi aussi qui es perdu dans les champs et dans ton labeur, j'ai besoin de te retrouver. Toi qui es loin de moi, j'ai besoin de te retrouver. Viens mon fils, viens ma fille. Viens contre mon cœur. Alléluia. Seigneur, je te prie que tu amènes ta liberté partout dans ce lieu, qu'il y ait des fils et filles qui viennent à la vie maintenant. Je vous invite juste à tendre les bras au ciel maintenant. Saint-Esprit, feu de Dieu, tombe, je te prie qu'il y ait la filiation du fils et des filles de Dieu, que si même tu n'as jamais été aimé de ton père, si tu n'as jamais eu de tendresse et affection, que tu reçois ce matin l'amour du Père, au nom de Jésus. Que tu reçois l'amour du Père, au nom de Jésus.